France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour les informer, votre émission de débat préféré. Et tenez, une question pour commencer. Quelle est la différence entre vous, auditeurs confortablement installés dans votre voiture, vous, téléspectateurs affalés dans vos canapés, et les informés qui ont pris place dans ce studio? Eh bien, eux, d'abord, ils se tiennent droit. Ensuite, ils ont compulsé de vieux grimoires durant tout l'après-midi où les sites d'information les plus modernes pour être à 100% ce soir. Je vais d'ailleurs vous les présenter tout de suite en commençant par nous partenaires presse. Bonsoir Madame Mostafavi.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. Étienne Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Marianne. Toujours à l'heure hein, pour les informer, Étienne. Clotilde Ripoul, à côté de vous, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'Association des élus locaux d'opposition, association transpartisane qui lutte finalement contre ces maires qui ne respectent pas suffisamment leur opposition. Et puis un petit nouveau avec nous ce soir, bonsoir Carbon de 16.
Bonsoir.
Vous êtes avocat à la Cour, candidat au bâtonnat de Paris. Allez, au sommaire, on va revenir longuement encore sur ce mouvement des Gilets jaunes parce que les choses sont peut-être en train de bouger du côté du gouvernement. Nous parlerons aussi du patrimoine africain. Faut-il rendre au Togo, Sénégal, Bénin des œuvres qui se trouvent aujourd'hui dans les musées en France? J'aimerais également avoir votre avis sur le Black Friday, cette journée frénétique d'achat à prix cassé. Les Français auraient dépensé aujourd'hui presque 6 milliards d'euros. Enfin, nous parlerons de Michael Jackson. Il est l'objet d'une exposition dans les prestigieuses galeries du Grand Palais à Paris. Vous me direz s'il est bien à sa place. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Vous connaissez la règle, les informés? Il n'y en a pas. Combien de gilets jaunes demain dans les rues de Paris? C'est la première question. La seconde étant, est-ce qu'il risque d'y avoir des débordements? Alors, écoutez en tout cas le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a tenu une conférence de presse cet après-midi et qui a une petite pointe d'inquiétude tout de même. Il rappelle d'abord que 136 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début du mouvement. On l'écoute.
Derrière ce chiffre, il y a des personnes qui souffrent parce que on ne veut pas déclarer son rassemblement, parce qu'on veut s'inscrire dans une contestation qui ne tient nullement compte de la sécurité et de la vie des autres. Cela doit cesser. Et c'est pour cette raison que j'ai donné des instructions claires, précises, pour que toutes les infractions et tous les comportements dangereux qui font courir des risques aux manifestants eux-mêmes soient systématiquement sanctionnés.
Christophe Castaner, cet après-midi. Clotilde Ripoul, c'est important la manifestation qui va se dérouler demain à Paris?
Oui. Oui, c'est important, comme tout le mouvement qui se déroule depuis une semaine. C'est un mouvement inédit en France. On voit bien qu'ils ont du mal au niveau du gouvernement à en définir les contours. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de demande précise. Tout ça déborde les différentes institutions intermédiaires. Donc effectivement, la façon dont ça va se dérouler samedi va être importante.
Étienne Girard, on avait peut-être l'impression que le mouvement s'étiolait sur le terrain. En fait, certes, les blocages sont sporadiques, mais la détermination des gilets jaunes qu'on peut entendre est vraiment très importante, quoi.
C'est ça. Il y aura peut-être pas demain 300 000 personnes comme la semaine dernière, parce que tout simplement, il n'y a pas 300 000 personnes qui ont les moyens de se projeter à Paris et de venir en voiture à Paris demain. Mais les gens qui continuent à manifester, qui continuent à militer, sont extrêmement déterminés. Et les blocages automobiles, de par leur nature, permettent à assez peu de gens d'avoir un pouvoir de nuisance, de bloquer beaucoup de monde. Donc c'est un mouvement qui n'a pas besoin d'une base extraordinairement fournie pour fonctionner. Mais ce qui est intéressant de remarquer, surtout sur ce phénomène des Gilets jaunes, sur ces initiatives, c'est OK, il y a assez peu de monde. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes sur le terrain, 5000 personnes aujourd'hui. Mais le mouvement est soutenu par une immense majorité de Français.
77% des Français, selon un sondage Odoxa qu'on révélait.
Exactement. Donc il y a les gilets jaunes sur le terrain et puis il y a les gilets jaunes dans le cœur, si je puis dire. Et c'est important de le souligner qu'il y a un vrai sentiment populaire à ce mouvement tout aussi populaire.
Carbon de 16, ça veut dire que c'est un moment qui est tendu pour le gouvernement?
Mais clairement, en plus avec un schéma général du conflit auquel l'État n'est pas habitué, ne pas avoir d'interlocuteur, ne pas avoir d'organisation, c'est un schéma qui échappe totalement, même à un gouvernement aussi novateur que celui que nous avons actuellement. Par conséquent, il y a une bonne solution à apporter, c'est de faire appel aux avocats. Les avocats sont habitués à la médiation. On est tout prêt.
Je ne sais pas si ça va suffire. Finalement,
tout prêt à concourir au service du pays.
Finalement, Emmanuel Macron voulait s'attaquer ou faire disparaître les corps intermédiaires. Pour le coup, là, il est servi.
C'est ça. Alors, l'État a toujours pas compris que maintenant, il fallait maintenir les corps intermédiaires. Il y a encore des soubresauts, notamment dans la famille judiciaire. Mais les corps intermédiaires révèlent à cette occasion leur importance.
À Madame Mostafavi.
Oui, c'est vrai que quand on entend Christophe Castaner tout à l'heure parler de sécurité, évidemment c'est son travail de parler de sécurité, mais la façon dont il réagit paraît complètement anachronique et complètement décalée par rapport à ce qui se passe.
Pourquoi ça ?
Parce qu'on est dans un mouvement qui est né d'une colère, qui est né des réseaux sociaux, qui est né d'un mouvement en fait spontané. Donc on ne peut pas complètement essayer de l'encadrer dans quelque chose de rationnel. Il faut essayer d'entendre ce qui fait naître cette colère. Et ne pas l'entendre, c'est juste s'entraîner dans une spirale dont on peut pas sortir. Parce que la question, c'est pas tellement s'il y aura beaucoup de monde demain, mais c'est dans la durée, qu'est-ce que ça va donner et comment ça peut se transformer en quelle manifestation. On a les élections européennes dans 6 mois.
Oui, alors là, les élections européennes, ça peut se transformer.
Non, mais si, il y a un moment donné, ce sera un vote. On a quand même une montée du populisme un peu partout en Europe. C'est à partir de petites revendications comme ça qui ne sont pas entendues. Qui peut se passer après d'autres mouvements ?
Bon, on va continuer à débattre de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais vous le savez, sur France Info, c'est l'info qui prime. Il est 20h10. Toute l'info, c'est avec Thomas Benesch.
Un tweet de Gérald Darmanin provoque ce soir la suspension des débats au Sénat en plein examen du projet de budget 2019. Le ministre des Comptes publics écrit sur le réseau social qu'il s'opposera en seconde lecture à une mesure tout juste votée par la Chambre où les Républicains sont majoritaires. Cette mesure prévoit jusqu'à 1500 euros d'exonération d'impôt sur les indemnités des maires des petites communes. Quand le président de la CAPEB du Jura menace Brigitte Brûlebois, une députée de la majorité de son département, dans un courrier qu'a pu lire France Info, ce responsable exige de cet élu qu'elle modifie son vote à l'Assemblée sur la suppression d'une baisse de taxe sur le gazole non routier utilisé par les engins de chantier. Pour le président de la CAPEB du Jura, ce vote est une mise à mort du secteur du bâtiment. Cette affaire intervient en pleine grogne des Gilets jaunes. Avant la tenue d'un Conseil européen extraordinaire ce dimanche, l'Espagne met la pression sur le Royaume-Uni sur l'avenir de Gibraltar. Le secrétaire d'État espagnol aux affaires européennes a demandé aujourd'hui à Londres la reconnaissance par écrit d'un droit de veto espagnol sur la future relation entre l'UE et l'enclave britannique de Gibraltar. Une enclave dont Madrid revendique toujours la souveraineté. La Croatie mène désormais 2-0 en finale de la Coupe Davis de tennis à Villeneuve-d'Ascq près de Lille. Marine Cilic a battu ce soir en 3-7 Joe Wilfried Tsonga qui s'est en plus blessé. Plus tôt dans la journée, Jérémy Chardy s'est incliné face à Bora Koric.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on revient à ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, il y a les blocages filtrants tout à fait pacifiques, évidemment. Puis, il y a des opérations où les Gilets jaunes dépassent clairement la ligne jaune, justement. Des Gilets jaunes ont, par exemple, décidé de s'en prendre directement à des élus. Hier, un groupe d'une vingtaine de militants s'est rendu au domicile de Christophe Lejeune, député de La République En Marche de Haute-Saône. Écoutez son témoignage.
Leur volonté n'était pas pacifique, mais bien de répondre à un message Facebook qui circule depuis 2-3 jours, qui appelle les Gilets jaunes à aller directement au domicile des députés, là où il y a leurs familles et leurs enfants, et c'est écrit tel quel, en donnant les adresses, et pour qu'ils aillent directement les entraver pour mettre une pression supplémentaire. La ligne rouge, ils l'ont franchie, c'est inexcusable, inacceptable.
Voilà Christophe Lejeune, député de La République En Marche de Haute-Saône, au micro de Maxime Baquier de France Bleu Besançon, Carbon de 16. Alors, inacceptable, ça démontre aussi une forme d'exaspération. Oui. Et puis, ce que vous disiez précédemment, le fait qu'il n'y ait pas de corps intermédiaire, pas d'organisation dans ce mouvement.
Oui, ni dans ce mouvement, ni au sein de l'État pour faire face à ce mouvement. Si vous voulez. C'est ça qui est quand même très étonnant. Et cette exaspération, elle est le fruit de quoi ? De l'arbitraire, de l'interdiction des manifestations. S'ils n'avaient pas le sentiment que l'État répond de façon arbitraire à leurs demandes de manifestation, il n'y aurait plus de propension à ces débordements. Par conséquent, on favorise une attitude radicale quand on opprime la liberté de manifester.
Oh, il n'y a pas d'interdiction de manifester.
Bien
là,
sûr que si. Mais bien sûr que si, il y a des interdictions de manifester. Il y a des interdictions de manifester quand ils demandent un lieu de rassemblement, ils leur est refusé. Et quand ils s'installent sur un rond-point, ils sont évacués, et ça, c'est normal. Et à cet égard, il y a quelque chose de très intéressant dans la déclaration de Christophe Castaner, c'est de dire qu'il ne veut pas engager la responsabilité de l'État sur des nouveaux accidents. Donc ça veut dire, à contrario, que la responsabilité de l'État est engagée sur les accidents de la semaine dernière. Donc il vient d'ouvrir la porte aux avocats pour assigner l'État et faire indemniser.
Clotilde Ripoul, cette exaspération, il y a quoi ? Il y a une forme de mépris, vous avez l'impression, de la part de l'exécutif par rapport à ces manifestants depuis le début ?
On ne peut pas cautionner ce genre de débordement. C'est vrai que d'aller dans les domiciles en tant que femme politique, moi, évidemment, ça me choque. Maintenant, il faut quand même bien comprendre que les gens sont exaspérés. À Perpignan, par exemple, le patron de l'UPE 66, l'équivalent du MEDEF, a quand même pris la parole pour dire qu'il comprenait quand bien même les gilets jaunes entravent l'activité économique. C'est quelque chose d'inédit d'entendre comme ça le représentant du patronat expliquer qu'il comprend ce mouvement.
C'est peut-être qu'il veut essayer de calmer les choses.
Je ne crois pas. Je crois justement qu'on retrouve dans ce mouvement des exaspérations qui viennent de tous côtés et qui se trouvent confrontées à une impression de mépris des classes dirigeantes. Et qui, quand on entend les propos de M. Darmanin, alors, on vient d'avoir dans le flash un petit exemple différent de mépris des institutions et du mode de fonctionnement. Mais quand on entend ces propos sur les 200 euros pour dîner à Paris dans un dîner, on se dit qu'ils sont complètement déconnectés des réalités et du contexte social actuel. Et c'est très inquiétant parce que on a l'impression que dans ce contexte-là, l'Assemblée nationale, qui devrait jouer le rôle de cheville entre la base et le gouvernement, est incapable de suivre. Toujours dans les Pyrénées-Orientales, un député La République En Marche hier s'est fait secouer dans un débat par ces fameux gilets jaunes, mais ils sont incapables...
Secouer
gentiment dans un débat. C'était...
Parfois, ça se secoue aussi ici,
On les secoue et il n'en sort rien. Ouais. Il en sort des déclarations des uns et des autres, comme on vient de voir M. Castaner, qui sont incapables de nouer un lien avec l'électorat.
Étienne Girard, on a l'impression que des digues sont peut-être en train de céder, quoi, que ce mouvement parfois va nettement trop loin.
Oui, mais c'est un mouvement qui a les défauts de ses qualités, si vous voulez, il n'est pas structuré, pas politisé, donc en effet ça facilite l'action de francs-tireurs qui s'affranchissent des quelques consignes qui peuvent être données sur les groupes Facebook, et donc on assiste en effet à des comportements inqualifiables qui sont les attaques aux permanences d'élus, mais aussi j'ai été plutôt choqué de voir que dans certains barrages filtrants on acceptait de faire passer les gens simplement s'ils mettaient un gilet jaune ou s'ils criaient Macron démission. La presse quotidienne régionale fait ses délices de faits divers autour du comportement de certains gilets jaunes. Faut pas le cacher. Il y a des débordements. Effectivement, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils sont représentatifs du mouvement? Et là-dessus, il me semble pas. Il me semble que on met l'accent sur le comportement de quelques dizaines de personnes parce qu'il est extrêmement choquant.
On parle des manifestations pacifiques. Des débordements. On parle aussi de ce qui se passe à La Réunion.
Tout à fait. C'est normal qu'on en parle parce que c'est des comportements qui sont choquants. Mais est-ce que pour autant il faut en faire une donnée, quelque chose de représentatif de ce mouvement-là? J'en suis pas sûr, et je pense qu'il faut entendre leurs revendications sur le fond. Mais... Et leurs revendications sur le fond, en réalité, il y en a qu'une. C'est la principale revendication, la fin de la hausse des taxes sur l'essence et sur le diesel.
Amdam Mostafavi, on a quand même l'impression que ce mouvement peut partir un peu dans n'importe quelle direction en ce moment.
Oui, enfin, ça dépend aussi de la réponse qui lui est donnée. Est-ce que si le gouvernement fait un geste en cédant ou en ne cédant pas, mais en tout cas en ouvrant un dialogue, bon, après la question, ça va être avec qui? Parce que c'est vrai que l'absence d'intermédiaire fait que c'est aussi difficile de dialoguer avec quelqu'un et d'obtenir, comme on fait d'habitude, des compromis,
des négociations,
etc. Ouais. Donc là, il y a aussi un jeu de tout ou rien. C'est-à-dire soit le gouvernement recule et ça s'arrête, soit le gouvernement maintient et ça continue, ou pas. Ils peuvent aussi parier sur l'essoufflement de la contestation, ce qui probable, puisqu'on n'est pas face à, justement, on n'est pas face à des gens qui sont organisés, qui ont l'habitude de manifester, qui ont, je ne sais pas, tout ce qui, l'organisation qui se met en place quand il y a un syndicat qui lance une grève, etc. Donc, il est peu probable que, ne fût-ce que dans leur vie quotidienne, toutes les personnes puissent continuer à manifester. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les entendre et se demander pourquoi on en arrive là, parce que ce mouvement va peut-être entraîner d'autres mouvements qui seront sur d'autres thématiques.
Alors justement, le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas en ce moment en train de bouger? Emmanuel Macron va s'exprimer, vous l'avez entendu, mardi prochain. Déjà, le gouvernement reporte jusqu'à nouvel ordre la création d'une vignette poids lourd. C'était une révélation France Info ce matin. Écoutez, tenez le gentil petit tacle par derrière de Nicolas Hulot hier sur France 2.
Je me serais bien passé, et la France se serait bien passée, de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social, alors que ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Et personne ne pourra me démentir que je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes. Je n'ai pas été entendu. On m'a opposé des raisons budgétaires. J'en ai tiré des leçons.
Voilà, Nicolas Hulot sur France 2, Étienne Girard, vous pensez que le gouvernement pourrait lâcher du lest?
Non, en tout cas pas à la hauteur des demandes des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une tenaille, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a, depuis le début du mouvement, expliqué que tout le monde devait garder le cap. On a été élu pour 5 ans, pour produire des réformes, donc on ne lâchera rien. Et la taxation du diesel et de l'essence fait partie de ces réformes, on ne lâchera rien. Le problème, c'est que les Gilets jaunes, ils ne veulent pas entendre de mesurettes, de chèques énergie, de report de l'instauration de la vignette poids lourd. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils demandent exactement ce que refuse de leur offrir Emmanuel Macron.
Donc le gouvernement ne lâchera rien?
Il y aura peut-être des mesures. On va continuer
à en débattre.
Il y aura des mesures, mais ça ne suffira pas à calmer les Gilets jaunes.
Mais il est 20h20 sur France Info. Toute l'info, c'est avec Thomas Benesch.
À quoi va ressembler demain la mobilisation des Gilets jaunes à Paris? Selon le préfet de police, il pourrait être 30 000 dans la capitale à descendre dans la rue. C'est le nombre en tout cas de personnes qui sur les réseaux sociaux se disent prêts à se mobiliser, sans dire pour autant si ces mêmes personnes passeront à l'action. Ce vendredi, selon le ministère de l'Intérieur, quelques 5 000 personnes manifestent dans l'Hexagone, notamment à proximité ou sur les autoroutes du territoire. À Angers, dans le Maine-et-Loire, le RAID négocie avec un Gilet jaune prétendant détenir des explosifs. Il se trouve à proximité d'une station-service. L'individu demande à ce que les gilets jaunes en plein mouvement de grogne soient reçus à l'Elysée. L'homme est déjà connu des forces de l'ordre pour des affaires de stupéfiants. L'Assemblée nationale autorise le gouvernement à réformer la justice des mineurs par ordonnance. L'amendement mettant en place cette procédure a été adopté par 33 voix pour, 18 contre. L'opposition est vent debout et dénonce l'effacement du Parlement. En pleine affaire sur la restitution d'œuvres d'art africaines à leur pays d'origine, Emmanuel Macron annonce ce soir qu'il a décidé de restituer au plus vite 26 œuvres au Bénin. Elles avaient été prises par l'armée française en 1892. Une petite note de douceur avec l'inauguration ce soir du 449e marché de Noël de Strasbourg. Le maire de la ville a allumé les 250 décorations du sapin dressées sur le site des festivités. Un arbre de 30 mètres de haut. Ce marché de Noël est ouvert au public pendant 5 semaines.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Un peu de douceur, vous avez raison Thomas Benesch, compte tenu du climat et de cette actualité des gilets jaunes. Je me tourne vers vous, Amdam Mostafavi. Même question qu'à Étienne Girard. À votre avis, le gouvernement va lâcher du lest?
Je pense qu'ils vont être obligés de lâcher du lest quand même sur cette affaire, parce que ça me paraît... On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, de président des riches, de décalage entre entre la base et le sommet. C'est le président Macron lui-même qui parlait de base et de sommet. À un moment donné, je pense qu'il ne peut pas se permettre d'accumuler sans arrêt des mesures qui donnent l'impression justement qu'il est ce président des riches, sans à un moment donné répondre à une demande qui est pas totalement folle, c'est-à-dire juste de pouvoir se déplacer. Je pense que faire de l'écologie punitive comme ça a été fait là, c'est pas la solution. On essaye d'expliquer depuis tout le monde, on a fait la COP 21, on a fait les accords de Paris. On explique que l'écologie c'est important. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Il y a eu des marches pour le climat aussi spontanées. Donc il faut réussir à réconcilier ces deux réalités. Et créer d'abord le dispositif, créer d'abord les transports qui vont avec, créer les modes de fonctionnement, désenclaver certaines communes pour permettre après d'expliquer et d'accompagner en fait ce mouvement des taxations. C'est pour moi, ça se fait trop rapidement.
Alors les avis sont partagés entre ceux qui disent non, il lâchera rien, oui, il doit lâcher. Carbon de cesse, si le gouvernement venait à lâcher, comment est-ce qu'il faut qu'il lâche? Parce que on a l'impression que jusqu'à présent, il est un peu inaudible. Alors bah, c'est au ténor du barreau que je m'adresse. Ouais. Parce qu'il faut se faire entendre.
Oui, c'est la grande injustice, c'est qu'ils sont rattrapés sur une intention louable, c'est-à-dire mettre un terme au réchauffement climatique par une mesure incitative.
Et puis également remplir un peu les caisses de l'État, soit dit en passant.
Et voilà, et ben je pense que c'est là le levier pour que ce gouvernement devienne audible. C'est d'abord de garantir l'affectation des fonds de la taxe carbone. Le grand défaut actuel de cette politique, c'est qu'elle est menée dans la défiance générale. Quel usage faites-vous des fonds? Et on en revient à ce mépris des corps intermédiaires qui, eux, pourraient, un, auditer, deux, expliquer. Parce que le gouvernement qui gère les fonds de l'État est en conflit d'intérêts quand il dit que les fonds de l'État sont bien gérés. Mmh. Bon. Il est également pris en défaut quand, pour rétablir le pouvoir d'achat, dans les régions où on est obligé de prendre sa voiture pour aller acheter son pain, le prix du pain s'en trouve démultiplié. Par conséquent, le bon moyen pour le gouvernement, c'est un, de ne pas faire semblant d'entendre, de ne pas faire de la communication, de ne pas faire de la cosmétique, ne pas tomber dans ses revers en disant « Ah, mais on n'a pas été assez pédagogue ». Non, il y a des mesures de fond qui sont mauvaises. Il faut qu'il l'admette. Et il faut qu'il l'admette.
Bah, très belle plaidoirie, maître. Clotilde Ripoul, lâcher sur la taxe carbone quand même, est-ce que ce serait pas renoncer aussi aux réformes difficiles? Il y a le souvenir des bonnets rouges qui est pas si loin. On se souvient comment François Hollande avait donc abandonné cette taxe qui devait frapper les routiers.
On retrouve un vieux problème historique français, c'est la révolte contre les gabelous pour la taxation sur le sel.
Ah, les gabelous, voilà. Les apprises, hein.
Exactement. Sauf que là, Emmanuel Macron s'est déjà exprimé, son premier ministre aussi, et je dirais que ça n'a pas fait bouger le problème. On a l'impression qu'on atteint peut-être les limites du système Macron. C'est-à-dire que là, on se retrouve face à un gouvernement qui a finalement des méthodes, un programme, mais pas vraiment de vision, d'idéologie, et qui est mis en défaut sur la cohérence de son action, qui arrive pas à entendre, qui sait pas donner de gestes forts parce qu'il a pas la solution à un mouvement qui le dépasse complètement et dont il a pas les formes. Alors c'est amusant, mais par exemple Jean Lassalle qui porte le gilet jaune à l'Assemblée, ouais. C'est quand même symptomatique. C'est un personnage qui est éminemment populaire, même s'il a pas fait un grand score à la présidentielle, il reste
un
populaire.
Un peu chabrac aussi.
Il a été réélu dans un contexte où d'autres auraient été battus et les réactions, la réaction du président de l'Assemblée nationale était à la hauteur de ce qu'on voit par rapport au gilet jaune. Donc c'était vraiment symptomatique.
C'est-à-dire rappel à l'ordre, amende de 1200 euros,
etc. Donc c'est vraiment, ils ont des façons de fonctionner qui sont déconnectées. Donc là, Emmanuel Macron mardi, s'il trouve pas un bon argument, s'il frappe pas un grand coup, s'il arrive pas à trouver l'engrenage qu'il faut amorcer pour désamorcer la crise, il va être vraiment en difficulté sur l'ensemble de sa mandature.
Étienne Girard, je vous sens extrêmement perplexe.
Oui, mais vous avez posé la bonne question. Est-ce que Emmanuel Macron est capable de sortir de son système, du système qu'il a élaboré, qu'il a fait gagner et qu'il propose depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire cohérence totale entre le programme et ce que je fais et mon action.
Cohérence, je sais pas.
Lui, il l'explique comme ça. Lui, il
dit
explique.
Je fais ce que j'ai dit.
Oui, bah c'est ça. Voilà.
Mais c'est pas une cohérence sur l'ensemble de l'action.
Pour lui, c'est sa cohérence.
D'accord.
Est-ce qu'il est capable de faire un geste fort et donc de sortir de ce système-là en disant, finalement, les hausses de taxes sur l'essence et le diesel sont annulées. Ça m'étonnerait fort, mais effectivement, c'est la seule échappatoire.
Mais elle est possible, celle-là, cet échappatoire? On va tout de suite dire, voilà, renoncement...
Bien, mais c'est tout le problème, c'est qu'effectivement, le lendemain, les associations écologistes se plaignent en disant, ah ben voilà, ils cèdent à une minorité bruyante.
Non. Allez, les informés, vous restez bien en place, on va laisser passer la pub, la météo, l'info et on se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export, un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, man gete de Marc. Commercial memrek la bague. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Je l'utilise pas mal par ici.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Élodie Calac.
C'est encore agité sur le sud-est, du Languedoc aux Cévennes. Les fortes pluies et les orages persistent en début de soirée avant de s'atténuer. Il faudra attendre le milieu de nuit sur les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes. Soyez très prudents, les quantités de pluie peuvent être très importantes en très peu de temps. Demain, le calme reviendra autour de la Méditerranée. Ce sera sec et ensoleillé. Seule la Corse gardera des averses, plus espacées l'après-midi. Sur les autres régions du sud, il faudra composer avec la grisaille matinale. Elle laissera la place à un ciel parfois voilé, surtout entre l'Aquitaine et Auvergne. Sur la moitié nord, un ciel bien gris le matin avec des brouillards, de la pluie sur l'extrême nord, des averses sur le nord-ouest, partout l'après-midi. Il fera 1 à 7 degrés le matin, jusqu'à 11 sur le sud-est. L'après-midi, 7 à 12 degrés au nord, 11 à 15 au sud, jusqu'à 19 en Corse. Ça se gâtera dimanche, de nouvelles pluies traverseront le pays.
Élodie Calac, Météo France. Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Vianney Smirovski. Bonsoir Vianney.
Bonsoir. À la veille d'une grande manifestation à Paris, Christophe Castaner appelle les organisateurs des Gilets jaunes à la responsabilité. Il n'y a pas de liberté d'expression sans ordre public, dit le ministre de l'Intérieur, qui précise aussi que 136 policiers ou gendarmes et 620 civils ont été blessés depuis le début de la mobilisation. Le ou les lieux de rassemblement de l'acte 2 à Paris sont pour le moment tenus secrets et le climat général est tendu. Les adresses personnelles des députés comme les adresses de leur permanence parlementaire circule sur les réseaux sociaux, par exemple. Et sur Internet, les menaces et les intimidations se multiplient contre les parlementaires. Jean-Jérôme Bertolus.
Depuis ce week-end, l'ambiance est particulièrement lourde, constate une collaboratrice parlementaire d'Anne-Laure Cattelot. La députée du Nord de La République En Marche a vu sa permanence taguée et recouverte d'affiches. D'autres permanences, comme celle d'Amélie de Montchalin dans l'Essonne, ont également été vandalisées cette semaine. Mais il y a plus grave. Depuis samedi, après chacune de ses interventions, Bruno Ketel, député de l'Eure, a reçu des menaces de mort par mail. Sur les réseaux sociaux, les menaces fusent. Huguette Tiena, députée du Lot, a décidé de porter plainte après des insultes racistes particulièrement abjectes. Ces derniers jours, selon la présidence de l'Assemblée nationale, plus d'une quinzaine de députés de la majorité ont également reçu la visite de gilets jaunes directement à leur domicile. Comme en Haute-Saône, Christophe Lejeune, contraint d'aller chercher ses deux jeunes enfants à l'école primaire sous escorte de la gendarmerie. Aucune violence physique, mais au ministère de l'Intérieur, on se dit pleinement informé et vigilant.
Jean-Jérôme Bertolus, dans la Marne, trois hommes ont été condamnés aujourd'hui à des peines de prison ferme par le tribunal correctionnel de Reims. Des gilets jaunes accusés de violence sur une policière et de dégradation lors d'un barrage filtrant. Et puis à Angers, dans le Maine-et-Loire, le RAID est en train de négocier avec un homme qui prétend détenir des explosifs près d'une station service sur un parking d'un centre commercial. Il souhaite que les gilets jaunes soient reçus à l'Elysée. Une nouvelle vidéo accable Nordal Lelandais, une deuxième vidéo retrouvée dans son portable par les gendarmes, où on le voit commettre des attouchements sur une petite fille, une petite cousine à lui, sa filleule âgée de 5 ans au moment des faits. Il sera entendu par les juges d'instruction. Ce sera le 7 décembre prochain en vue d'une nouvelle mise en examen. Au Mali, une trentaine de terroristes ont été mis hors de combat selon les termes de l'état-major de l'armée française, dont probablement un des principaux chefs djihadistes. Les militaires français ont mené une opération, c'était dans la région de Mopti, dans le centre du pays, la nuit dernière. La ministre des Armées, Florence Parly, salue une action d'empêchement d'ampleur complexe et audacieuse. Emmanuel Macron lui a décidé de rendre 26 œuvres réclamées par le Bénin, des prises de guerre de l'armée française en 1892. Et puis la finale de la Coupe Davis de tennis, c'est la Croatie qui mène pour l'instant 2-0 face aux Français. Pour l'instant, il est 20h33. On retrouve Olivier Delagarde et ses invités pour la suite des informés de France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Retour effectivement dans le studio 221 de la Maison de la Radio, toujours en compagnie d'Adam Mostafavi de Courrier International, Étienne Girard de Marianne, Clotilde Ripoul, présidente de l'Association des élus locaux d'opposition, et puis Carbon de 16, avocat à la Cour, candidat au bâtonnat de Paris. Allez, on va changer de sujet après avoir longtemps débattu des gilets jaunes et on va faire un petit sondage. Tiens, qui a aujourd'hui fait un petit achat profitant de prix supposés cassés? Vous pouvez lever la main. Aucun des informés n'a rien acheté. J'en étais sûr, vous êtes des purs esprits. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les Français... Ah, Amda Mostafavi.
Le vendredi n'est pas terminé.
Le vendredi n'est pas terminé, d'accord. Bon, en tout cas, les Français, eux, ont fait chauffer leur carte bleue, comme on dit un peu vulgairement. Ils ont dépensé presque 6 milliards d'euros. C'est absolument considérable. C'est l'effet Black Friday, une mode qui nous vient des États-Unis. Juste après la très célèbre fête de Thanksgiving, les magasins offrent des rabais exceptionnels pendant une journée, deux, trois, parce que ça va même durer ce week-end. C'est une bonne chose, Madame Mostafavi, que cette mode ait atteint notre beau pays de France?
Ben comme Halloween, ce sont des modes américaines qui se suivent et qui arrivent. Mais en fait, c'est surtout symptomatique d'une façon maintenant de vendre qui est uniquement de vendre au rabais, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les périodes de soldes se succèdent sous des prétextes divers et variés. D'abord la période de soldes traditionnelle, puis les soldes exceptionnels, les journées spéciales, il y avait les French Days il y a un mois. Il y a toujours en fait une nouvelle raison de vendre au rabais, parce que je crois qu'avec justement la nouvelle façon de consommer, on n'achète plus vraiment au prix fort. Ce n'est plus une notion. Et si finalement, dans le temps, on finit par dépenser la même somme, disons, sur l'année, mais c'est toujours dans le cadre de moments spéciaux, d'opérations spéciales. Et puis, il y a toujours ce fait de pousser à la consommation qui est très paradoxal avec tout le discours écologique, justement, qu'on avait en début d'émission et qui est de réduire la consommation.
Mais d'ailleurs, il y a des associations qui s'élèvent pour promouvoir une sorte de Green Friday, un vendredi vert où on consommerait de manière responsable. Carbon de 16, je vous vois hilar. C'est une nécessité économique, ces journées de soldes à répétition.
Et oui, c'est la joie de la communication, de la publicité. Alors, parce que quand même, cette empreinte écologique, elle n'est pas neutre. Ça veut dire qu'on atteint les ressources, puisque effectivement on achète à valeur égale, mais on achète de plus en plus de produits puisqu'il est soldé, et la durée des vêtements est maintenant réduite par deux depuis les années 2000 et est en moyenne de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on est en train d'épuiser, les ressources de la planète.
Dans 2 ans, il sera plus là.
Ah non, celui-là, non. Oui, il sera là dans 2 ans. Et le vôtre aussi, cher Olivier Delagarde.
Oh, ben vous savez, dans 2 ans, moi, je serai plus là. Clotilde Ripoul, comment vous voyez les choses?
Bon, ce qui est surprenant, c'est que on est quand même en fin de mois, donc il y a 80% des Français qui n'ont plus rien dans le porte-monaie, et malgré tout, et malgré tout, il y a une dépense considérable. Donc c'est peut-être aussi des dépenses d'anticipation par rapport à la fin de l'année qui arrive aux fêtes, c'est-à-dire que les gens programment différemment leurs dépenses. Ça pose la question du modèle de consommation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même deux phénomènes. Celui qui pousse à consommer local, du Made in France, on sait où c'est produit, etc. Et puis, cette espèce de modèle marketing américain, grande surface, mall, toujours plus gigantesque, avec des soldes plus énormes.
Et on a l'impression que c'est les mêmes Français, d'ailleurs, qui à la fois disent « bah oui, on va consommer local », mais en même temps, bah oui, on est toujours un peu pris par cette fièvre acheteuse, quoi. Étienne Girard ?
Oui, peut-être.
Oh là, je ne me sens pas du tout motivé.
Écoutez, moi, le Black Friday, j'avoue que ça m'exaspère un peu.
Oui. Alors, pourquoi ça vous exaspère ?
Ah, mais pour plein de raisons. Première raison, pourquoi on n'a pas trouvé un nom français pour parler de cette initiative-là.
Pourquoi... Ouais, le Vendredi Noir, voilà, c'est vrai que là, ça fait un
pourquoi
peu...
Pourquoi copier toujours les noms américains, le Black Friday, pour, ça fait quoi? Ça fait brancher?
Ah oui, je pense qu'il y a des tas de spécialistes de la communication qui vous diraient que c'est overbeau, hein, bon. Black Friday. Voilà.
D'accord, probablement. Moi, ça m'agace plutôt. Et en plus, je lis UFC Que Choisir, vous savez, l'association qui produit des enquêtes. Et alors,
travailler à Marianne, vous lisez UFC Que Choisir.
Oui, j'assume.
C'est... Pour le bon cas.
Et alors, d'après eux, en réalité, les rabais sont ni plus ni moins qu'égal à 2%, pas plus. Parce que les vendeurs, finalement, mettent des prix beaucoup plus hauts pour dire que le jour du Black Friday, bah, ils font une remise de 30%. Donc en réalité, on a des prix soldés, mais qui valent beaucoup moins cher.
Bah, c'est ça le trouble à l'ordre public. C'est là que Christophe Castaner
devrait
intervenir.
C'est ça qui aurait dû être interdit par le ministère de l'Intérieur.
S'il veut marquer de son empreinte sa trajectoire politique, il faut qu'il interdise le Black Friday.
Bon, mais attendez, je vous sens très, très rétifié. Et en même temps, la consommation, c'est le moteur numéro un de l'économie. Tous les mois, on scrute, ou par trimestre, les évolution du PIB, la consommation c'est très important, et puis le marketing est là pour effectivement favoriser cette consommation, Clotilde Ripoul.
Oui, enfin, ce qu'on essaie de favoriser, c'est une consommation responsable, écologique, et on est très loin du Black Friday quand même, hein. Dans les faits, on a une multiplication des achats peu durables, dans des conditions produits, dans des conditions souvent absolument lamentables. Donc, on a un peu le double discours. On a le discours du marketing et puis on a le discours du politique qui cherche à pousser les gens vers plus de durable, plus d'écologie, moins de consommation, justement. Et tout ça est quand même aujourd'hui en concurrence.
Pauvre madame Mustafavi qui voulait faire un petit achat. Oui, après les informer ce soir, alors là vous avez compris.
Après, on est un mois avant Noël, donc on ne peut pas non plus en vouloir aux gens d'anticiper.
Bon, allez, voilà pour le Black Friday, on va changer de sujet. Mais d'abord, on va laisser passer l'info, puisqu'il est 20h40 et que Thomas Benesch vient de nous rejoindre dans ce studio.
Trois gilets jaunes condamnés aujourd'hui à Reims à 4, 12 et 18 mois de prison ferme pour des violences sur une policière et des dégradations lors d'un barrage filtrant. Les faits jugés se sont produits samedi dernier lors d'une manifestation qui a dégénéré. Cette audience judiciaire intervient à la veille d'une nouvelle mobilisation des gilets jaunes à Paris, entre autres. La capitale où vous ne pourrez pas grimper au sommet de la Tour Eiffel, elle sera fermée demain toute la journée pour cause de manifestation des gilets jaunes sur le Champ de Mars. Selon la société d'exploitation de l'édifice, les conditions de sécurité ne sont pas réunis pour accueillir du public. Le trompettiste Ibrahim Malouf, condamné aujourd'hui à 4 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Les faits ont été commis sur une collégienne de 14 ans. L'artiste a toujours nié toute culpabilité. Est-il possible d'être sanctionné à la fois sur le plan pénal et fiscal quand on a omis de déclarer ses revenus ou quand on ne l'a pas fait dans les délais impartis? Oui, répond aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui a rejeté un recours déposé par l'ancien ministre Thomas Thévenoud. L'ex-secrétaire d'État au commerce extérieur contestait cette double peine. Les Français ont perdu leurs deux premiers matchs en simple en finale de la Coupe Davis de tennis. Joe Wilfried Tsonga face à Cilic, Jérémy Chardy face à Bora Koric. Tsonga qui a terminé son match avec difficulté après s'être blessé. La finale de la Coupe Davis se tient jusqu'à dimanche à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Bon, je suis d'accord avec vous, débattre du Black Friday, c'était peut-être un peu futile. Cette question l'est beaucoup moins maintenant. Faut-il restituer les œuvres d'art qui sont dans les musées français, les restituer à leur pays d'origine? Question qui se pose alors qu'un rapport sur le sujet a été remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Selon cette enquête, 90 000 œuvres ou objets venus d'Afrique subsaharienne seraient aujourd'hui dans les musées français. Question qui se pose d'autant plus qu'il y a un an, lors d'un déplacement à Ouagadougou, Emmanuel Macron avait été extrêmement ferme sur la question. On l'écoute.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Bon, et ça n'a pas traîné, puisqu'on a appris que Emmanuel Macron avait décidé de restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin, des prises de guerre de l'armée française en 1892. Restitution, car bon de 16, les mots ont de l'importance.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. La restitution, c'est rendre quelque chose qu'on possède indûment. Donc c'est très différent d'un retour. Donc la restitution, l'usage de ce terme, c'est l'aveu du fait qu'on n'est pas propriétaire et qu'on en est un possesseur illégitime.
Donc déjà,
Donc poser la question dans ces termes, c'est répondre quant à la destination des œuvres et leur retour au pays d'origine.
Alors ne parlons pas de restitution, parlons de retour de ces œuvres dans leur pays d'origine. Madame Mostafavi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense que c'est assez pionnier de la part d'Emmanuel Macron d'avoir attaqué cette question et d'avoir déjà commencé à restituer des œuvres. C'est plus possible, je pense, aujourd'hui, de continuer à ignorer le problème et à faire comme si il n'était pas possible de rendre ou de restituer, quel que soit le mot que vous vouliez utiliser, le patrimoine qui appartient à des pays. On n'est plus dans une position de dominant-dominé, de colonisateur face à colonisé.
Alors, ce sont d'abord, des pays... c'est intéressant ce que vous dites, parce que est-ce que ce patrimoine appartient à ces pays ? Est-ce que le patrimoine appartient au pays d'origine de l'auteur d'une œuvre d'art ?
Bah, est-ce qu'on est content si toutes les œuvres réalisées par l'ensemble, parce que là on parle de quantité phénoménale, c'est-à-dire que c'est pas comme si, évidemment, les musées français ont le droit d'avoir quelques œuvres qui ont été données, prêtées, offertes par d'autres civilisations, c'est pas ça la question, mais tous les peuples ont droit d'avoir leur histoire sous la main, d'avoir leur propre témoignage. Comment on peut prétendre créer des identités, des sociétés, on est dans des sociétés parfois qui font face à d'importants conflits. La culture a un rôle là-dedans, et ne pas avoir de témoignage de sa propre culture. On parle par exemple de la statue de l'homme requin au Bénin, c'est des choses très fortes qui sont très constitutives de l'identité. Ne pas les avoir dans son pays, pour moi, c'est inenvisageable.
Clotilde Ripoul.
C'est un problème c'est une question très complexe. Alors déjà, il y a des confusions.
Vous voulez pas y répondre.
Il y a des confusions des fois de fait entre des problèmes d'objets d'art et des problèmes de dépouille. Par exemple, on a rendu la Vénus au Tantote en 2002. Il s'agissait d'une dépouille. Il y a comme ça des questions en suspens sur des crânes maoris, des crânes algériens.
Moi, je vais vous poser une question toute simple. Le président de la République rend 26 œuvres d'art. Est-ce que le président de la République est propriétaire de ces œuvres d'art ? Est-ce que il est le est-ce que c'est pas la nation qui est propriétaire de ces œuvres d'art ? Et en ce sens, est-ce que Emmanuel Macron est bien autorisé à donner ou à rendre ou à restituer ces œuvres d'art ?
Effectivement, c'est un problème beaucoup plus large que la simple décision d'un président de la République, mais c'est aussi pourquoi l'Afrique. Alors certains pays en Afrique, comme le Bénin, sont emblématiques d'effectivement un pillage presque que généralisé, mais la Chine a aussi été pillée pendant certaines périodes de son histoire. Nous avons des œuvres d'art, nous, dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Michel-de-Cucha, les chapiteaux...
Les cloîtres qui sont à New York.
Au MoMA, tout à fait. On a des œuvres grecques, on a des œuvres. Donc je dirais que c'est une problématique très générale et sur laquelle je trouve on va vite en besogne.
Étienne Girard.
Oui, c'est effectivement un cas extrêmement complexe et sensible. De toute façon, il ne faut pas que ce soit un débat juridique, parce que juridiquement...
Alors donc, Carbon de 16 exclut, là.
Je crains que ça le soit éminemment.
Mais c'est vrai que c'est très politique.
Oui, mais alors sur le terrain juridique...
C'est la convention de l'UNESCO de 1970.
La réponse a été apportée par l'administration Hollande, par les conseillers de François Hollande, qui ont expliqué qu'à l'époque, le droit de la guerre permettait de prendre des œuvres...
Ce sont des gens qui ont donné une interprétation du droit, c'est pas le droit.
Rien n'oblige la France à restituer
le premier texte qui a fondé la matière, qui prouve que la question est ancienne, c'est l'édit de Moulins en 1566 qui a affirmé l'inaliénabilité des collections publiques. Et la question que vous posiez tout à l'heure, Olivier de Lagarde, est d'autant plus fondée, c'est quelle est la destination de ces œuvres une fois qu'elles sont retournées ? In situ, c'est-à-dire dans les communautés, dans les ethnies, dans les villages qui ont créé l'œuvre, ou ex situ, c'est-à-dire dans les musées. Et dans les musées, on va dépouiller ces ethnies, ces villages, ces communautés de leur histoire, notamment parce que plusieurs de ces objets sont rituéliques. C'est-à-dire que nous les considérons, nous, comme des œuvres d'art. Ils sont considérés par les populations locales, avant d'être des œuvres d'art, comme étant les objets consacrés à des rituels. Et par conséquent, on consacre le détournement de leur affectation initiale, c'est-à-dire la volonté de l'auteur de l'œuvre. C'est là qu'on saisit toute la complexité de la question. Alors, qu'est-ce qui va se passer, in fine ? Ça ne sera pas une décision juridique, on a déjà la convention de l'UNESCO de 1970. Ça sera une décision politique. Et la décision politique, elle devra s'asseoir sur une donne juridique qu'il faudra remanier. Et tant mieux, ça va créer du mouvement, ça va recréer de la dynamique et ça va recréer de la solidarité avec les pays africains.
Ah, Madame Safavi, je vous sens totalement excédée par ce que dit notre ami l'avocat.
Non, je comprends ce qu'il dit. Dire toujours, enfin, pour moi, on pose la deuxième question avant de poser la première. C'est-à-dire que après, en effet, oui, il faut, c'est au pays de se demander comment on respecte, comment dans la culture locale, on respecte telle ou telle ethnie et on rend ou on rend pas. Mais déjà, nous, il faut quand même que les pays, les anciens pays colonisateurs se posent la question de leur responsabilité et donc ne continuent pas à considérer comme un trésor de guerre, justement, un trésor de guerre. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder...
Alors, ce que disent aussi les directeurs des musées, c'est que, finalement, la France a sauvé beaucoup de ses œuvres, hein, qui, oui, aujourd'hui, si elles étaient restées dans leur pays d'origine, auraient probablement disparu.
On peut dire ça, on peut dire en effet ça, mais pour moi, c'est rester dans la position de colonisateur colonisé, de dominant dominé.
Étienne Girard.
Non mais absolument. Effectivement, on pourra toujours trouver des raisonnements qui permettent de garder les œuvres en France. Donc c'est une décision politique qui montre une volonté d'aller de l'avant et de dépasser, en effet, ce passé qui ne passe pas et ce rôle qu'a eu la France et ses actions françaises et ce qu'a fait l'armée française, d'aller dans des villages et de piller et de
mais
piller
vous, des vous allez entendre des villages. Qu'il y a des voix qui vont s'élever pour dire
bien sûr,
Emmanuel mais Macron dépouille absolument. La France.
Bien sûr, mais c'est un choix politique qui doit être assumé comme tel, de faire un geste envers ces pays qui sont d'anciens pays colonisés et de montrer un signe que les temps ont changé et qu'on prend conscience que la colonisation a suscité des abus et donc qu'on restitue ces œuvres à ces pays, tout
simplement. Et alors, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on retourne aussi ce qui est dans les collections privées à ce moment-là ?
Alors ça, c'est une...
C'est du vol.
Bah alors ça, c'est une...
Et puisque vous voulez que la solution soit juridique, mais qu'elle soit politique, pourrait très bien exproprier les propriétaires d'œuvres.
Mais justement, je vous dis que c'est pas juridique, que c'est
vous
politique.
Vous allez y aller, et vous allez le faire.
Eh ben écoutez, je vous
non, parce que la réponse, ça doit être politique.
Et vous verrez qu'on restituera très peu l'État le premier.
Merci Carbon de 16. On continue évidemment les informer. On va changer de sujet. D'abord 20h50. Toute l'info, c'est avec Thomas Benesch.
3000 policiers seront mobilisés demain à Paris pour l'acte 2 de la mobilisation des Gilets jaunes. Dès ce soir, pour éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur en appelle à la responsabilité des organisateurs et souligne qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans ordre public. Demain, les Gilets jaunes ont reçu l'autorisation de se rendre sur le Champ de Mars pour exprimer leur colère, entre autres contre la hausse des taxes sur les carburants. Ce lieu du Champ de Mars, lui, ne fait pas l'unanimité. Plus de 400 femmes journalistes appellent à rejoindre une autre manifestation demain dans la capitale entre Opéra et République, celle pour dénoncer les violences faites aux femmes. Ce matin, elles ont publié sur France Info une tribune dans laquelle elles dénoncent allusions sexuelles, gestes déplacés qui peuvent avoir lieu dans certaines rédactions ou au contact de certaines sources. Un nouvel attentat aujourd'hui en Afghanistan a fait au moins 9 morts, 22 blessés. L'attaque a eu lieu dans une mosquée de l'armée afghane située dans l'est du pays. Un kamikaze s'y est fait exploser alors que débutait la prière. Cet assaut intervient 3 jours après un attentat suicide à Kaboul lors d'un rassemblement religieux. Duel de haute tableau ce soir en match avancé de la 14e journée de Ligue 1 de football. Lyon reçoit Saint-Etienne pour un nouveau derby entre les deux équipes, respectivement 4e et 5e du championnat. Le coup d'envoi, c'est dans 10 minutes maintenant.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, dernier thème pour les informer. Ce soir, on va rester dans le monde de la culture. J'aimerais qu'on parle effectivement d'une exposition. Elle a ouvert ses portes hier dans les prestigieuses galeries du Grand Palais. Le thème de cette expo, eh bien, c'est l'auteur de ceci. Alors, Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous avez reconnu Michael Jackson. Le chanteur est mort il y a presque 10 ans. Et le Grand Palais a donc rassemblé des œuvres d'artistes ayant été inspirés par le roi de la pop. Ça vous paraît pertinent? Je vous entendais tousser, Carbon de 16.
Bah, ça me paraît d'autant plus pertinent, Olivier de Lagarde, que pour une fois que vous allez parler d'une exposition au Grand Palais, moi je peux que m'en réjouir.
Bah, mais là... Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce... Sur France Info, mais, l'actualité oui. culturelle a toute sa place.
Oui, je vais vous dire pourquoi c'est bien cette exposition, c'est que la pop culture, c'est de la culture.
Bon. Adam Mostafavi ?
Je suis tout à fait d'accord, à partir du moment où les œuvres de Michael Jackson sont spoliées à personne, moi ça me va très bien. Mais,
alors ce ne sont pas des œuvres de Michael
non,
Jackson,
sur Michael
hein.
Jackson,
ce sont des œuvres sur Michael Jackson.
Non mais
Jackson.
Justement ça montre qu'il a été, très inspirant pour beaucoup d'artistes de cette génération et qu'il n'y ait pas de raison qu'il n'entre pas au musée. Maintenant ça, c'est aussi bien d'avoir au musée des choses qu'on reconnaît, qui nous parlent à tous.
Voilà, donc Velázquez, Michael Jackson, ouais, tout ça finalement c'est un peu la même chose.
Velázquez, c'est peut-être le Michael Jackson de l'époque.
Oui, sûrement, mais ça va être difficile d'imaginer quand Velázquez a pu être inspiré par Michael Jackson. Olivier.
Non, mais on est d'accord. La question qui se pose, est-ce que cette exposition est bien à sa place au Grand Palais? Est-ce qu'elle n'aurait pas ça n'aurait pas été plus pertinent qu'elle soit, par exemple, au Palais de Tokyo? Le Palais de Tokyo, c'est un musée qui est consacré à l'art contemporain, qui est peut-être un peu plus disruptif, comme on dit maintenant, pour
Olivier,
utiliser un mot branché.
Pour un provincial qui vient à Paris, la finesse qui consiste à se demander si c'est plus au Grand Palais ou au Palais de Tokyo, je pense que, très franchement, ça lui échappe complètement. C'est très parisien, ce genre de débat.
Le
provincial qui vient à Paris, il connaît Michael Jackson, et ce qui est intéressant, c'est que...
Je me fais ramasser par tout le monde, là, ce soir.
L'exposition...
C'est votre Black Friday.
le Black Friday, effectivement.
L'exposition, elle est intéressante parce que, justement, on n'y va pas pour voir Michael Jackson faire son moonwalk, mais justement pour montrer l'influence qu'il a eue auprès de nombreux artistes. Donc ça, je trouve ça très bien. Ça va attirer beaucoup de jeunes. Ils vont découvrir plein de choses, y compris le Grand Palais.
Vous êtes à fond dans le politiquement correct. Mais ça ne m'étonne pas de vous. Étienne Girard, est-ce que vous allez voler à mon secours?
Non. Absolument pas.
Ah ben voilà. Eh ben, je vais vous dire un truc. Je l'avais parié.
Non, mais que ça ait choqué dans 2-3 cafés à Saint-Germain-des-Prés, Olivier de la Garde, je veux bien le croire. Mais le reste de la France ne s'offusque pas, il me semble, qu'il y ait une exposition d'art contemporain sur Michael Jackson au Grand Palais. Parce que le grand public ne sait pas quel type d'œuvre il y a habituellement et au Grand Palais particulièrement.
Ce qui est tout de même intéressant.
Michael Jackson est une icône, donc oui.
Ce qui est tout de même intéressant, c'est cette propension qu'ont aujourd'hui les grands musées, parce que c'est un vrai business, ces expositions, de monter finalement et d'être obligé de monter des sortes de blockbusters, d'expositions qui vont ramener beaucoup de gens. Alors on met Picasso Braque, on va monter des tas d'expositions, en sachant que ça fait venir du monde parce que on a besoin effectivement de faire du chiffre.
Ça,
vous n'allez pas me retirer quand même.
C'est ça la bonne question, Olivier de Lagarde.
Je vous remercie.
Mais je vais vous dire, c'est tellement vrai ce que vous dites, mais ça vient contredire votre position initiale. C'est que ce sont des lieux qui sont régulièrement privatisés et où on expose beaucoup plus avant que Michael Jackson, qui déjà a l'air de vous choquer.
Ah non, pas du
mais
tout,
par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sacralité que vous conférez à ces lieux, les propriétaires les en ont dépouillés depuis longtemps, puisqu'ils les privatisent. Donc ne vous offusquez pas de l'occupation et de la dégénérescence commerciale de l'affectation de ces lieux.
Ah, il faut pas s'en. Alors, il faut rien dire. Et c'est vrai que le musée a un petit côté. C'est vrai que le musée a peut-être un petit côté sacré, et notamment en France où on va beaucoup au musée, beaucoup plus qu'ailleurs. Adam Mostafavi.
Non, mais c'est vrai que la question c'est pas tellement de pourquoi on voit cette expo, plutôt que celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des artistes très intéressants, des thématiques très très importantes pour la culture qu'on ne voit pas parce qu'elles sont justement moins populaires, elles accrochent moins tout le monde, elles sont moins médiatisées aussi, et que donc il y a peut-être des expositions qui ne se font pas et qui ne sont pas mises en avant, des artistes qui sont ignorés. Je sais pas, on parle aussi beaucoup des artistes, des femmes qu'on n'a pas assez exposées, qu'on n'a pas assez parlé. Il y a aussi, voilà, il y a sûrement des artistes qui n'ont pas justement, qui n'entrent pas dans ce jeu médiatique.
Bah, c'est bien ce que je voulais dire aussi. Oui, hein, voilà. Peut-être qu'on aurait pu faire de la place pour une autre exposition, pour peut-être un artiste plus ambitieux, moins connu que Michael Jackson, qui n'a pas besoin de ça. Hein. Il est mort, deuxièmement. C'est l'artiste mort qui rapporte.
Non, mais lui, non, mais il est l'objet, il est l'objet de l'exposition. Oui, il n'est pas l'auteur des œuvres, cher Olivier Delagarde.
J'ai bien compris.
Allez la voir, l'exposition, avant de la critiquer.
Alors, je vais vous dire, Joe, cette exposition, en plus,
c'est le produit d'appel.
On la défend sur France Info, parce que, en plus, c'est une exposition France Info. Ah. Voilà comment vous rivez le clou. C'est la fin des informés. Merci à tous les quatre. On va quand même regarder la une de vos journaux, ouais. À la une de Courrier International cette semaine.
Donc, consacrée à la course à l'Afrique, comment les pays comme la Chine, le Brésil, etc., se mobilisent pour essayer d'investir en Afrique.
Étienne Girard, la une de Marianne.
Oui, c'est les pillards. Figurez-vous que la délinquance flambe dans les campagnes. Et on a une tribune de Jean Lassalle sur les petits maires.
Merci à vous quatre. Excellente soirée. L'info continue évidemment sur France Info.